Atari back, tripped up. No one goes up. David Perron gets open, trying to feed the puck to Bozak, scores! The Bruins all stare at the referee as the puck goes in the back of the net, and the St. Louis Blues on a David Perron bank shot.
And how is this not a penalty?
La séquence du match d'hier, la séquence qui a fait la différence, c'est devenu le but gagnant que le but de David Perron, quelques secondes seulement après que Tyler Bozak ait fait trébucher le défenseur des Blues de Saint-Louis, qui s'est retrouvé quatre fers en l'air, qui a même été retiré du jeu pour subir le protocole des commotions à Cherry. Philippe Quentin est avec nous. Bonsoir, Philippe.
Salut, Mario.
Comment t'as réagi quand t'as vu ça? Il y en a plusieurs, dont Bruce Cassidy, l'entraîneur des Bruins, qui a parlé d'un œil au beurre noir. Et comme je le disais à Ron tout à l'heure, on va manquer de beurre tout à l'heure parce que on entend parler d'œil au beurre noir depuis le début des séries en matière d'arbitrage.
Oui, tout à fait. Mais moi, je trouve que hier, Mario, c'est un moment extrêmement gênant pour la Ligue nationale de hockey. Surtout que depuis le début des séries éliminatoires, on le sait que l'arbitrage, c'est un enjeu crucial. Il y a eu des erreurs manifestes qui ont été commises. Et je sens pas de la part de la Ligue nationale vraiment une volonté d'aller au bout des choses. Et hier, c'est le résultat du laxisme qui est toléré. Et plus que ça, quand un arbitre décide de sévir parce qu'il joue que ça le mérite, ben, il y en a qui ont été punis. Ceux qui ont donné la punition dans la série Vegas-San Jose, là, qui a permis aux Sharks de revenir dans le match, ben, par la suite, ils ont pu être choisis pour arbitrer des matchs. Mais, tu sais, moi, là, se plaindre de l'arbitrage, c'est quelque chose qui m'énerve. J'entends ça depuis que je suis là, okay, depuis que je suis petit gars. Puis, tu sais, on a entendu, il y a eu des coachs qui étaient des spécialistes de ça. C'était tout le temps la faute aux arbitres.
Je pense comme toi.
Oui, puis ça vient que c'est fatigant, puis c'est redondant. Puis moi, je suis plutôt de l'école. Regarde, tout ça finit au bout du compte un peu par s'équilibrer. Des erreurs, il y en a des deux côtés et tout et tout. Mais là, hier, je trouve que c'est inadmissible parce qu'il me semble qu'il n'y a pas d'excuse. Tu ne peux pas ne pas donner une punition là-dessus. Il n'y a aucun facteur qui ferait en sorte que tu pourrais excuser la décision des arbitres de ne pas sévir. Tu sais, tu peux pas dire « Ah oui, mais ça s'est passé loin du jeu. » Non, la rondelle était là. Tu peux pas dire « Ouais, mais l'as-tu vraiment fait tomber? Le gars s'est un peu laissé... » Non, le gars, il est tombé à Cherry complètement. Tu l'as dit, il est obligé d'aller subir le protocole des pour vérifier s'il n'y avait pas une commotion cérébrale. Bozak, sa réaction, tout de suite, il lève un peu les mains, de l'air à dire « Hey, je l'ai pas fait par exprès. » Parce qu'il sait manifestement qu'il vient d'écoper une punition. C'est clair dans sa tête. Tu le vois dans sa réaction. « Ah non, tu sais, je voulais pas faire ça. » C'est comme s'il s'excusait déjà à l'arbitre puis essayait de le convaincre que ça méritait pas un deux minutes. Alors, tous les éléments sont là. Il y a aucun facteur qui pourrait diminuer leur responsabilité. Et là, ben, bien sûr, on peut blâmer les arbitres et puis c'est sûr qu'ils ont leur responsabilité, mais tout ça part du laxisme de la Ligue nationale. Cette fameuse théorie de dire « On va laisser les gars jouer. » Quand on laisse les gars jouer, on n'équilibre pas les chances. Au contraire, on prend parti dans le match. Parce que si on autorise un coup comme celui-là, on permet à l'autre équipe d'en profiter.
Et Philippe, les équipes de faire la différence qui sont bâties pour abuser des règlements, donc qui sont favorisées. C'est toujours ce que j'ai prétendu. Et comme je l'ai souligné à Ron tout à l'heure, l'ironie du sort, c'est que les Bruins en sont victimes cette fois. Eux qui en ont abusé souvent au fil de leur histoire.
Oui, au fil de leur histoire, très, très certainement. Alors ça, moi, ça me choque. Deuxièmement, ce qui me choque peut-être encore plus, c'est la réaction de la Ligue nationale. Alors, autour de juste un peu avant minuit, là, il y a un commentaire qui a été émis par Stephen Walcombe, qui est le chef des officiels de la Ligue nationale, qui était questionné par tous les journalistes qui couvrent la finale de la Coupe Stanley. Et là, il y a un collègue qui est chargé de cueillir sa réaction au nom des autres. Et voici quelle est la réponse de Walcombe. Il dit « Ah, écoutez, si on commente pas ce genre d'incident-là, c'est une décision que l'arbitre doit prendre. Il doit prendre des dizaines de décisions pendant une rencontre et sur le coup, il a estimé qu'il n'y avait pas de punition. Merci, bonsoir, fin des émissions. » Tu lis ça, puis tu dis, mais c'est incroyable se désengager comme ça. C'est incroyable ne pas assumer ce qui s'est produit hier. C'est incroyable de s'en laver les mains puis de dire, c'est bien plate. Hein? Ils sont peut-être bien trompés. Peut-être qu'ils ne sont pas trompés. On ne sait pas trop parce que nous, la Ligue nationale de hockey, on ne commente pas ça. On ne commente pas les décisions des arbitres. Ils ont l'air fous, disons le mot tel qu'il est, depuis le début des séries, avec des décisions qui ont été extrêmement controversées. Je pensais tantôt de celle Vegas-San Jose, quoi qu'on en pense, qu'on soit pour, qu'on soit contre, ça crée une immense controverse, cette histoire-là. Et après ça, la fameuse passe avec la main, là,
ben oui,
qui a permis à San Jose de battre Saint-Louis dans un match en prolongation. Ça aussi, c'était tellement manifeste, c'était tellement évident, comment quatre officiels ne peuvent pas voir ça. Et là, moi, je me demande, coudonc, est-ce que les arbitres aujourd'hui, de la part de leur patron, ils ont tellement peur de donner une punition, ils ont tellement peur que ça soit finalement un peu leur responsabilité s'il y a un but, ils préfèrent tellement les buts à 5 contre 5, à 5 contre 5, regarde, c'est pas pendant une punition, c'est pas de notre faute, les arbitres. Mais ça, les arbitres, peut-être qu'ils sont pas comme ça foncièrement, mais si c'est ça le message que leur envoie leur patron, de dire, ah, faut pas s'en mêler, il faut laisser les joueurs jouer, surtout en finale, je trouve ça aberrant.
J'ai une question
pour
toi, Philippe.
C'est assez gênant.
T'as pas l'impression que les arbitres deviennent et se moulent selon les critères sur lesquels ils sont évalués?
Oui, tout à fait, Mario, tout à fait. Oui, ils se moulent à ça, exactement. Puis c'est
on
probablement
a ça,
ça
on
les
a moulé des
qu'on
arbitres,
leur demande.
C'est ça.
Peut-être que ce qu'on leur dit, c'est passer le plus inaperçu possible. T'sais, laissez toute la place aux joueurs, ne vous en mêlez pas, t'sais, le moins possible. Agissez uniquement quand c'est patent. Mais même si on leur dit ça, hier, ce qui s'est passé, c'était
inadmissible.
C'était patent. C'était, tu sais, t'as pas, même pas besoin d'être un grand expert de hockey. Tu peux regarder un match par année. En fait, tu peux pas connaître le sport puis te dire que non, c'était clairement une punition. C'était aussi évident que ça. Alors, moi, ça me choque, ça, parce que ça a eu une influence sur le match. Évidemment, ça permet aux Blues de prendre les devants 2-0 en troisième période. Mais ce qui me choque, je pense encore plus, c'est la réaction après le match du chef des officiels. Puis je comprends que le chef des officiels, c'est pas Gary Bettman, puis c'est pas Bill Daly. Mais quand j'ai entendu au début, là, juste avant le premier match de la finale de la Coupe Stanley, Gary Bettman à sa conférence de presse annuelle là, au début de la finale, quand il est allé encore un peu mollo sur la reprise vidéo, sur l'arbitrage, tu sais, t'entends tous ces gens-là qui sont tellement agressifs quand vient le temps de générer des dollars supplémentaires dans la Ligue nationale, de faire plus d'argent, de mettre en vente des produits dérivés, de trouver des initiatives pour le marketing, sont extrêmement créatifs. Mais quand on parle de traitement pour toute la façon dont la Ligue s'occupe des commotions cérébrales, de l'arbitrage, des enjeux qui sont plus sérieux, notamment celui des commotions cérébrales, bien sûr. T'sais, et tu sens dans tout ça une espèce on s'en occupe pas trop, on veut pas en parler, ça nous énerve. Et moi, ça, je trouve ça inadmissible.
Autre sujet, on se prépare pour le match numéro 4 de la finale de la NBA et les Raptors pourraient prendre les devants 3-1 dans cette série. Je ne vais pas placer la charrue devant les bœufs. Il y a le retour au jeu de Klay Thompson, un spécialiste des tirs de 3 points, tout comme Stephen Curry. Klay Thompson qui sera de retour dans l'alignement ce soir. Et tu peux constater, c'est le cas depuis le début des séries, mais on dirait plus on approche de la fin, plus ça s'intensifie. Toutes les équipes dont on apprend qu'elles vont tout faire pour attirer Kawhi Leonard dans leur équipe. En tout cas, lui a l'air assez concentré. Heureusement, ça semble pas le perturber, mais ça doit être fatigant pour les amateurs des Raptors. Hein?
Oui, ça doit être assez fatigant parce que là, c'est le meilleur joueur, celui qui mène à la finale pour la première fois de leur histoire, qui pourrait s'en aller, mais c'était le risque qu'on a pris, bien sûr, quand on a obtenu ses services. La direction des Raptors savait très bien qu'il restait une année à son contrat, qu'il serait joueur autonome par la suite, puis on fait le pari de dire, hey, on prend un an avec lui minimum, puis on pense qu'on peut gagner un championnat. Puis dans le moment, le pari est gagnant. Gagne ou perd le championnat,
oui.
Si tu te rends en finale, tu gagnes au moins deux matchs en finale, t'as gagné ton pari, t'as une chance réelle de remporter le championnat, même si les Warriors reviennent. Mais oui, c'est un peu fatigant, puis j'ai hâte de voir, parce que là, aujourd'hui, bon, il y avait les rumeurs, bien sûr, des Clippers de Los Angeles qui pourraient être intéressés à lui faire une offre. Et là, aujourd'hui, je lisais sur des médias torontois que là, c'est les Knicks de New York qui pourrait être également intéressé à Kawhi Leonard. Alors, tu vois ce joueur-là qui arrive à Toronto, qui connaissait pas tellement le Canada, certainement très peu la ville, sauf pour y avoir joué quelques fois à titre de joueur d'une équipe visiteuse. Et là, il arrive là, puis ça se passe super bien. Il est traité par la direction de l'équipe de manière extraordinaire.
Comme le roi du Nord.
Ouais, voilà, exactement. Puis tu sais, quand tu regardes les blessures qu'il y a eu, puis ça avait causé des problèmes dans la relation avec son ancienne équipe. Il arrive à Toronto, ils lui ont dit, écoute, on va vraiment s'occuper de toi, tu joueras pas deux matchs en dans deux soirs. On va vérifier ton temps de jeu, puis on va te garder pour que tu arrives aux séries éliminatoires en pleine tout en pleine fraîcheur, en pleine possession de tous tes moyens. Et c'est exactement ça qui s'est produit. Les Raptors ont tenu leur pari. Et là, tu dis, coudonc, et là, il se rend en plus. Bon, les foules sont extraordinaires. Il y a un buzz incroyable autour de l'équipe. Mais tu te demandes jusqu'à quel point tout ça va l'influencer. Est-ce qu'il va dire, hey, j'ai le goût finalement de passer les 4-5 prochaines, les 5 prochaines années, parce que son prochain contrat devrait être de 5 ans, les 5 prochaines années de ma carrière ici à Toronto, il va dire, non, sais-tu, ça a été super le fun, mais hey, New York appelle, quand New York appelle ou quand Los Angeles appelle, c'est des grandes métropoles, puis je vais avoir plus le goût d'aller là. J'ai hâte de voir, ça serait quand même extraordinaire s'il signait un nouveau contrat à Toronto, parce que ça montrerait, là, on parlait de on parle parfois de loyauté dans le sport, on dit qu'il n'y en a pas beaucoup, mais là, ça montrait, on dit souvent que c'est les équipes qui doivent se montrer un peu reconnaissantes avec les joueurs. Tu sais, on en parlait, toi et moi, tu te souviens, en début de semaine, on parlait de Drew Doughty, puis tu disais,
oui.
Tu sais, il y a eu un gros contrat, peut-être qu'ils l'ont trop payé, puis moi, je te disais, ben, c'est peut-être l'organisation qui voulait être un peu reconnaissante pour les succès passés.
C'est vrai.
Mais là, ça serait comme l'inverse. S'il signe à Toronto, parce qu'il va avoir le même montant qu'à Kawhi Leonard partout, c'est comme lui, s'il se montrait tout à coup reconnaissant envers les Raptors de l'avoir traité comme il voulait être traité, puis de se retrouver dans un environnement qui est hyper stimulant pour un joueur de basketball.
Juste une précision,
ça va vraiment être le fun.
Toronto peut donner plus d'argent que les autres équipes, parce que c'est l'équipe qui possède ses droits. Les autres peuvent aller à 50 contrats, les autres c'est 4. Contrairement à la Ligue nationale, c'est 7 si t'es un adversaire, puis c'est 8 si t'es l'équipe qui a déjà les droits sur le joueur.
Tout à fait, bonne précision.
Et d'ailleurs, je serais pas surpris, ça c'est un autre sujet, que Batman veulent se rapprocher d'un 5 ans plutôt que d'un 7 ou 8 ans dans une prochaine convention collective.
Ça serait pas étonnant.
Et en tout cas, on va regarder ça ce soir, évidemment.
Ah,
ça,
écoute, ça c'est vraiment, tu sais, je t'écoutais là, juste de faire l'introduction de cette portion-là de notre conversation. Qui aurait dit, Mario, qu'il y a un an, là, toi et moi, et partout au Québec, des gens discuteraient des alignements des Raptors et des Warriors en prévision d'un match au mois de juin, qu'on se dirait, hey, c'est ce soir, c'est à quelle heure, on veut pas rater ça. C'est un phénomène qui est vraiment assourdissant. Tu regardes, je lisais un reportage récemment dans les bars sportifs, c'est rendu que c'est plein à Montréal, là, pas à Toronto, à Montréal. C'est plein pour les matchs des Raptors. Les gens en parlent, des gens qui écoutent jamais le basket à la télé.
Et bien tranquille pour les matchs de hockey.
Ouais, ben oui, exactement. Parce que c'est vraiment une finale absolument extraordinaire. Mais en fait, les Raptors, ils ont proposé des séries éliminatoires vraiment excitantes depuis le début des séries.
Alors, on va voir comment ça va se terminer ce soir. On va voir si les Blues vont pouvoir gagner devant leurs partisans à domicile en fin de semaine. Ouais. Et j'ai envie de dire, on va voir, puis on pourra s'en parler la semaine prochaine, si Marc Bergevin est sur le point de réaliser un coup ou une signature.
Oui, tout à fait.
Mike Riley, probablement ce soir. Ça, c'est une signature mineure, mais pour le reste, on va voir et on va attendre.
Sais-tu ce qui me fascine, Mario? Je veux juste terminer avec ça, mais quoi, on est le 7 juin aujourd'hui.
Oui.
Dans un mois, là, jour pour jour, le 7 juillet, là, on a à peu près l'idée de à quoi le visage du Canadien va ressembler en 2019-2020. Ça s'en vient vite. Là. C'est le moment crucial pour Marc Bergevin. Les trois prochaines semaines, le repêchage, il y a tout le temps de période d'échange de joueurs à ce moment-ci. Et puis, bien sûr, la signature des joueurs autonomes.
C'est là que ça se passe, Philippe. Ouais. Merci beaucoup et bonne
Salut.
Fin de semaine.
À toi aussi.
Merci bien. Bye-bye. Et après la pause, on s'en va au circuit. Gilles Villeneuve, retrouver Maxime Sarrazin et Philippe Lagu qui nous raconte les grosses histoires de la journée, dont Lewis Hamilton qui a touché le mur. À tout de suite.